Alors, bienvenue à toutes et à tous à ce séminaire du Centre de recherche interuniversitaire sur la communication, la formation et la société. Ça fait un certain nombre d'années qu'on réfléchit sur les relations entre communication, culture et perspective critique. En fait, depuis 2010, et on a créé dans notre jargon, dans le cadre de l'axe 4 du Centre, donc un séminaire depuis 2 ans sur la question des épistémologies critiques en culture et communication. Dans celui-ci, en fait, l'objectif, c'est de s'interroger sur à la fois, alors c'est un vaste projet, à la fois sur ce que c'est la culture, la communication, la critique, et donc aujourd'hui, ça nous a semblé être un moment propice à réfléchir sur cette question à partir de la recherche et création. D'où en fait la présence de nos deux invités. Tout d'abord donc Louis-Claude Paquin à ma gauche qui va intervenir en premier, et puis Éric Letourneau qui se trouve par rapport à moi, donc hein, tout est relatif, à l'opposé dans la salle. Bon, mais de toute façon ça n'a pas de, il n'y a pas de centre. Le principe c'est que Louis-Claude va commencer donc à prendre la parole. Et puis ensuite, nous débattrons ensemble. Le débat sera lancé par Svet Dojchinov, qui est étudiant au programme de doctorat ici même. Puis ensuite, la parole sera à Eric, et puis Svet aussi lancera le débat. On enregistre pour rendre disponible en fait, l'ensemble du séminaire. Je ne registre pas la tentation de souhaiter, entre autres, la bienvenue à Jean-Pierre Boyer. Un de nos collègues également de l'École des médias, à l'UQAM, qui est maintenant à la retraite, mais toujours actif. Une mémoire collective sur tout ce qui est archives et militantisme. Louis-Claude, donc, c'est à toi la parole. Bon, je vais simplement préciser pour l'enregistrement que Louis-Claude Paquin est à la fois professeur à l'École des médias, ici même, et directeur du programme de doctorat en communication.
Merci, Eric, de m'avoir invité. Et puis... merci de vous être rendu ce matin.
C'est vous deux avant tout qu'il faut remercier, et puis Svet.
Donc voilà, je vais commencer. Dedans ma tête, ça parle. Il faudrait que je trouve un bon titre, juste séduisant. Un titre qui va cerner au plus près le propos que je voulais transmettre. Je me demande si je suis rendu un par-l'être. Là, je vais le dire d'une voix assurée, le tournant performatif des études en communication. Tout de suite après, je me questionne. Ouais, mais est-ce que c'est le ou pour un? Est-ce que c'est pour les études ou pour la recherche? Est-ce que la communication est une science sociale ou une science humaine? Finalement, j'énonce. Pour un tournant performatif de la recherche en communication. J'hésite. J'ai un peu peur. C'est vrai que j'ai peur. Plus je me lance. Mon exposé aura une forme performative, du moins au début. Ça parle encore dans ma tête. Ouais, mais j'écris mal. Ça fait plus de 30 ans que je n'ai pas écrit à la main. J'écris toujours à l'ordinateur à deux doigts, copier-coller avec des fautes, comme vous voyez. Je joue avec des blocs de texte. Et puis, comme il n'y a rien pour rien, Jung appelle ça la synchronicité. J'ai rencontré un très beau texte de Flusser que j'ai fait subir à mes étudiants mercredi soir, que j'ai trouvé par hasard, et puis qui me revient. Bon, ceux qui sont intéressés, je vous l'enverrai. Son truc, c'est le geste d'écrire. C'est une écriture phénoménologique sur qu'est-ce que c'est d'écrire en écrivant. Donc, il a fait la Dactylo. Dactylo, traduction française avec des fautes, avec tout ça. Éric m'a dit, oui, mais il faudrait que ce soit critique. Que là, je dis, tiens, ben, je vais me vider le cœur. je suis plus capable des conférences trop léchées, des PowerPoints avec des fonds dégradés, des images, des animations, des effets spéciaux. Je trouve que les PowerPoints, ça finit par réguler la pensée qu'on voudrait exposer. J'en peux plus des conférences inertes, mortes, où toutes les traces du processus de pensée avec ses doutes, mots de vente, errance, sont retirés au profit d'un résultat lisse, désincarné. sans m'en rendre compte, ça fait plus de 2 ans que sans vraiment avoir fait de projet précis, j'accumule les composantes de mon propre tournant performatif. Je me suis acheté une plume fontaine, une Pilot Vanishing Point, collection rétractable, noire, mât, pointe moyenne, une bouteille d'encre, Hiroshikai, Shinkai. Tout ça fait de moi un samouraï de l'écriture. Puis, dans le fond, juste un ninja. Donc, vous voyez l'appareil de travail performatif.
J'avais déjà acheté un autoculteur. Oui. C'est
un prix dans l'autoculteur. Oui, oui. C'est au moment où je travaillais moins finement, la théorie. J'avais envie de revenir à la matérialité qui met le corps à l'épreuve. Le papier, ma main qui tient la plume, ma main qui n'est plus vraiment si habile à cause du rotoculteur peut-être, qui est parfois engourdie, qui ralentit mon geste parce qu'il faut que je prenne soin de bien former les lettres. Oui, ça c'est après beaucoup d'essais. Accepter qu'il y ait un décalage entre la vitesse de ma main et celle de ma pensée. Mais par contre, entendre le grattement de la pointe de la plume sur le papier, rêche. Risquer des tâches. Risquer de devoir tout reprendre à la moindre défaillance du geste. Raconter au lieu d'affirmer, d'argumenter. Pour moi, la recherche était découpée en 3 types en fonction de leur visée. Il y avait d'une part la recherche, celle que la plupart des gens ici font, qui vise à l'avancement des connaissances ou à tout le moins ne pas les faire trop reculer. La recherche intervention ou action, ou encore ce qu'on appelle maintenant la recherche collaborative, qui vise à changer le monde, et c'est très bien comme ça. La recherche création, qui vise plutôt à produire un artefact ou un événement et à réfléchir sur la pratique de cette production. Je m'intéresse depuis une dizaine d'années, même peut-être plus longtemps, à la recherche création comme pratique et à la difficile question de sa méthodologie. Dans un premier temps, mes recherches, comme tout le monde, ont tourné autour de la création. Puis je me suis rendu compte que la plupart des textes des gens qui sont d'inspiration psychologique s'inspirent du modèle de Wallace qui a été développé pour la publicité, avec les 4 étapes que vous connaissez, dont la lumière qui s'allume. Je trouvais que c'était insatisfait parce que tous ces modèles portaient sur le processus et non pas sur le vécu. La chose. Monsieur Wallace. Et puis, je suis tombé sur le texte d'Anzieu, intitulé « Le corps de l'œuvre, essai psychanalytique sur le travail créateur ». Lui proposait 5 étapes qui, elle, étaient parties à partir de sa propre expérience. Donc, l'état de saisissement, la prise de conscience de représentants psychiques inconscients, instituer un code et lui faire prendre corps, la composition de l'œuvre, produire l'œuvre au dehors. Malheureusement, comme ce n'est pas un cours sur la recherche-création, je ne vais pas vous exposer les étapes en détail. J'ai aussi fait un inventaire des différentes approches ou façons de vivre la création par auto-questionnement conscient et rationnel ou encore, à la Anzieu, par un travail de l'inconscient psychanalytique. D'autres, par la transgression systématique de la pensée rationnelle. Encore, juste dans la fin de la modernité, le recours à un principe extérieur, soit l'art divinatoire, l'automatisme, le tirage au sort, etc. Certains, ça sera par un rapport direct au faire, en manipulant les matériaux avec la performance, on va arriver à faire la création. Et quand c'est en collectif, c'est par des négociations. Mais à partir de tout ça, comment trouver une méthode unique? Finalement, j'ai dû me rabattre sur le processus puisque l'ensemble des façons de faire et des expériences est tellement différent. Donc, ce que j'ai proposé, c'est une méthode par cycle heuristique qui propose les caractéristiques suivantes. Elle est adaptée au cadre académique de la maîtrise et du doctorat, donc ça convient bien à nos programmes. Ça permet de concilier la recherche et la création. Le problème qu'on a en recherche-création, c'est l'espèce schizophrénique de mener les deux en parallèle. Donc, il faut baisser notre anxiété de façon à les mener de plus en plus, de façon intriquée, entremêlée, voilà. Et comment on fait ça? Par des alternances de travail en atelier, laboratoire, etc. Et de la réflexion. Le terme réflexion, vous allez voir, revient souvent dans mon exposé. Et l'idée, c'est d'accompagner tout le processus du faire-œuvre, du début des études, en passant par le prototype, jusqu'à la rédaction, présentation finale, rédaction du mémoire ou de la thèse. Donc voici, c'est pas sorcier, c'est vraiment l'idée, c'est un cycle qui comporte quatre étapes. La première étape, c'est la formulation d'une ou plusieurs questions. Exploration et production en atelier ou laboratoire. Suite à cette exploration, production, éventuellement diffusion publique, au moins une certaine forme de diffusion pour permettre le pas derrière, pour regarder ce qui s'est fait. L'étape 3, on est vraiment dans une démarche réflexive, compréhensive. Donc, il s'agit de faire un récit de pratique et de cadrer ce qui s'est produit en atelier par rapport à des concepts, des théories, ou encore à des œuvres apparentées. Suite à cette étape-là, qui habituellement est dans un cadre académique sanctionné par une évaluation, il y a production de connaissances, formulation d'une question à partir du résultat, question qui relance le processus. Disons qu'à la maîtrise, habituellement, deux cycles sont faits, et puis au doctorat, c'est de 3 à 4 cycles qu'on peut voir comme étant la chose. Vous voyez, j'ai fait une conférence. La question la plus difficile, c'est celle de cadrer la recherche-création par rapport à la recherche en sciences humaines et sociales. Ça va bien quand on est dans notre sauce, quand on est endogène, avec ces étapes-là, on y arrive. Mais quand il s'agit de développer et de faire un lien avec le monde de la recherche en sciences humaines et sociales, c'est plus... Donc, si on reformait ça d'une façon plus pragmatique, si on adopte le point de vue que la méthodologie est un bricolage, quelles sont les approches qui peuvent faire partie d'un bricolage de recherche-création? Donc, le concept de bricolage vient de Denzin et Lincoln, donc, si vous pratiquez la méthode qualitative. Voilà. Donc, ça sera sans aucun doute une approche post-positiviste. Et donc, il n'y a pas de négociation là-dessus. Ce paradigme est basé sur une critique des présupposés sur lesquels repose le positivisme, hérité des sciences naturelles. Donc, je pense que c'est comme de s'attaquer à presque un cadavre que de vouloir battre le positivisme maintenant. La critique est vraiment très... Donc, c'est sûr que pour tout le monde, ça semble illusoire de penser, être capable de sortir de nous-mêmes, de se distancier du monde pour étudier l'humain et son monde. Même, ça paraît illusoire de penser expliquer un phénomène ou de pouvoir généraliser notre connaissance au point d'en prédire l'apparition. L'autre est un peu plus corsé. Il est illusoire de penser que les données recueillies sont des faits, dont l'analyse causale permet de tirer des lois, alors que celles-ci ne proviennent non pas d'une instrumentation braqué sur le réel, quoique on pourrait discuter longtemps, est-ce que l'instrumentation modifie la réalité? Je vais m'abstenir de cette discussion aujourd'hui. Alors que les données proviennent de paroles et de comportements qui sont transformés dans des représentations par les chercheurs après des entrevues ou des observations. Nos discussions, Lincoln et Gouba, la compétition des paradigmes dans la recherche qualitative. Le post-positivisme s'intéresse à la signification donnée par les acteurs aux actions dans lesquelles ils sont engagés. Donc, c'est un paradigme interprétatif. Sa seule prétention est d'interpréter le monde. Pour le post-positivisme, contrairement au positivisme, la recherche, elle est située, le mot-clé de située. Elle prend en compte le contexte matériel, social, culturel du phénomène étudié. Le post-positivisme étudie des idées, des croyances, des valeurs, des visions du monde. Les résultats de sa recherche sont déconstruits par l'interaction entre le chercheur et le phénomène. Et l'interprétation est transformative, elle est à la fois pour l'interprète que pour son objet d'étude. Je trouvais ça charmant. Donc, quels sont les apports possibles des approches positivistes à la recherche-création, demandent les étudiants en méthode 2. C'est quoi ma méthode? Quel stress. C'est là qu'on reprend le truc et on l'inverse. T'es pas quelque chose, tu fais un bricolage. T'as un problème, tu bricoles une solution à ton problème. Une méthode, série d'actions qui vont te permettre de traiter ton problème. Donc, j'en ai noté quelques-unes, c'est pas exhaustif. L'ethnographie, la bonne vieille ethnographie, entrevue, observation, tout ça, pour faire la recherche préalable à la création. Ou encore, pour étudier la réception de l'œuvre. L'herméneutique, ça c'est, je dois ça à une étudiante qui m'a trouvé ça dernièrement. C'est intéressant, pourquoi? Parce que si je suis dans un mode de construction d'œuvre qui implique le travail sur les œuvres de d'autres personnes, plutôt que de faire une ethnographie, je vais en faire l'herméneutique. Donc, je vais entrer mon geste de création dans le cercle herméneutique. La phénoménologie, le mot est lancé, pour accéder au sens que les spectateurs donnent à leur expérience. Donc, c'est très pertinent quand les gens font des œuvres basées sur l'expérience, c'est-à-dire que et créer des conditions propices à une expérience, je passe par des installations ou tout ça. Donc, l'œuvre, finalement, n'existe que par l'expérience qui est générée chez les personnes. Donc, si on veut faire la boucle et comprendre, on doit accéder au sens que les gens donnent à leur expérience. À ce moment-là, la phénoménologie pourrait être utile. La systémique, pour modéliser le dispositif de l'œuvre. Donc, pas seulement le dispositif au sens de Gamben, mais plus un dispositif au sens technique ou technologique, pour comprendre les interrelations entre les composantes, l'ordinateur, les traitements, les capsules, tous ces composantes-là, si on veut comprendre de quoi est fait notre dispositif, la systémique, ou encore les approches critiques, quand le faire œuvre vise à changer le monde, je pense à tout l'artivisme, toutes ces choses-là. Bon, maintenant, tout ça irait bien, mais finalement, le post-positivisme est en crise, comme à peu près l'université, la connaissance. Bon, les crises, c'est comme un terreau fertile pour le travail intellectuel. Donc, le post-positivisme est en crise. J'ai noté trois. En fait, c'est très complexe. Quand on essaye de prendre tout ce champ-là et de le comprendre de façon à pouvoir l'expliquer de façon assez cohérente, parce que ça se développe de partout, c'est organique, c'est informe. Et puis là, nous, en tant que professeurs et tout ça, on cherche à donner du sens, puis dire, inquiétez-vous pas, on va casser tout ça. Donc, la classification que j'ai trouvée, c'est en trois crises. Donc, j'ai choisi de ne pas prendre tout le tournant de la critique postmoderne, du post-structuralisme, d'invoquer Derrida, Deleuze, bon, etc., etc. Je pourrais le faire, mais ça serait long, puis je ne suis pas sûr que c'est vraiment pertinent de faire tout ça. Sinon que pour chercher à comprendre. Donc, première crise du post-positivisme, la légitimation, dont les gens qui sont au courant vont se voir, oui, auteur et tout ça. Oui, le post-positivisme a permis le changement de la relation entre le sujet connaissant et l'objet de la connaissance. Mais l'ontologie est la même. Il y a une réalité. Même si, pour les post-positivistes, celle-ci ne peut qu'être appréhendée de façon imparfaite. Mais il reste quand même cette idée. Et puis, la fameuse triangulation. Pour moi, ça me semble à la fois très bien, mais une espèce de retour du positivisme refoulé. Donc, l'idée que parce qu'on emploie trois méthodes post-positivistes ou trois stratégies, on va cerner de plus près notre objet. Oui, on va être peut-être un peu moins imparfait. L'emploi du « il » impersonnel comme instance discursive. et remise en question. Et ce qui est proposé ici, c'est un retournement ontologique autour de l'agentivité. Ce n'est pas le chercheur qui capture l'expérience vécue dans ses textes. Okay. C'est l'expérience vécue qui est créée par les textes et des chercheurs. Okay. Dès lors qu'on produit ce renversement-là, on se rend compte, et bien sûr, c'est fondé bon, sur tout le travail de Latour et d'autres personnes qui disent que l'instrumentation va changer la réalité qui est observée, etc. Si on applique ce retournement-là, effectivement, le post-positivisme est en crise. Là, ici, j'ai écrit post-structuralisme, mais je n'avais pas le courage de réécrire tout ça, donc, ni de le rassurer. Donc, c'est, ici, il fallait lire post-positivisme. La crise de la représentation, celle-ci nous touche de plus près. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de mettre en évidence le rôle actif de la subjectivité du chercheur, le rôle que cette subjectivité-là joue dans la construction et l'interprétation du phénomène étudié. Il s'agit de présenter la recherche comme elle a été vécue, avec ses doutes, ses intuitions irrationnelles, ses ambiguïtés, ses équilibres précaires, les affects, etc. Donc, éviter le lissage pour se donner un spectacle comme ayant eu une recherche qui a très bien marché, qui effectivement, tout s'est bien déroulé, et puis voilà. Pratiquer la réflexivité. Donc, oui, faire la recherche, mais réfléchir. Retour critique sur soi comme chercheur. Faire l'expérience de soi, à la fois comme enquêteur et comme enquêté. Donc, retournement. L'écriture n'est plus un processus de transcription de la réalité, mais un processus de découverte du phénomène et de soi. Donc, cette deuxième crise du post-positivisme a donné, entre autres, lieu à tout ce courant qu'on appelle la réflexion sur la pratique. Enfin, on pourrait, je vais m'assumer, je fais remonter à cette deuxième crise du post-positivisme toute cette éclosion de la réflexion sur la pratique. Donc, l'espèce de constat d'échec du fantasme d'une pratique qui découle de la science. Donc, c'est plus la science avec ses concepts et ses théories qui étaient appliquées à l'interprétation d'un phénomène, mais la pratique, y compris celle du chercheur. Donc, la réflexion ici devient un opérateur de connaissance avec ses propres méthodes, en fait, ses propres étapes, soit l'introspection, l'explicitation et l'analyse. Et ça donne lieu à une autre forme de connaissance qui est appelée par Polanyi le savoir tacite ou le fameux mode 2, si vous êtes dans celui du contexte d'application des connaissances. Donc, un ouvrage à fréquenter, « The New Production of Knowledge ». Et ce qui est intéressant, c'est que Camille Limoges, notre Camille Limoges nationale, a participé à ce truc-là. Donc, c'est pour ça que je vous montre le couvercle. Je suis très fier que ce soit un Québécois qui a participé à ce travail, qui cherche à... Oui, le mode 1 étant le mode de la connaissance scientifique, etc., mais à proposer un mode 2 avec des modalités différentes, qui est toujours dans ce courant-là. Donc, la pratique... praxis et tout ça, c'est le registre de l'action. Donc, l'action plutôt que la structure, le système et le discours abstrait. La pratique, elle est incarnée. Les corps, les activités sont constitués à même la pratique. La pratique est médiée par des artefacts et des objets naturels qui, eux, exercent une certaine agentivité. Donc, du genou gauche, bien sûr, je touche ici le nouveau matérialisme. Elle est organisée autour d'habiletés et de compréhension partagée. Donc, qu'est-ce que ça a pour effet de s'intéresser à la pratique plutôt qu'à la réalité et tout ça? C'est qu'on se trouve, à ce moment-là, à réduire la portée et la puissance de la raison. On reconceptualise la raison. La raison cartésienne, reprise par Kant et tout ça. On reconceptualise la raison, mais simplement comme une fonction de contrôle dans la conduite des activités, au même titre que les affects, les émotions, etc. Donc, de travailler les pratiques permet ou provoque, selon, un décentrement de la raison. Et, voilà, j'atterris, la recherche-création est une pratique. D'où l'idée du récit pratique, auquel je tiens tant. Il y en a dans celles qui le subissent. Voilà. Donc, d'une part, la réflexion sur la pratique. D'autre part, pour moi, le fait de que le chercheur s'intéresse à sa pratique de chercheur, que le chercheur s'intéresse à son expérience sensible amenée à l'auto-ethnographie. Pour ceux qui n'est pas familier avec l'auto-ethnographie, c'est un genre d'écriture autobiographique qui fait voir les couches de conscience, mais, important, le deuxième terme, qui met en relation le personnel au culturel. Donc, le chercheur occupe la part centrale du processus de recherche en donnant du sens à sa propre expérience. Donc, il devient à la fois le chercheur et le recherché. Une expérience, bien sûr, pour que ça soit valable, une expérience marquante dans sa trajectoire de vie, une épiphanie. Donc, des exemples, la perte d'un être cher, un cancer, bon, etc., etc. Dans la littérature, il y a beaucoup d'exemples d'auto-ethnographie. Et tout ça, c'est un récit à la première personne. Et le présupposé derrière l'auto-ethnographie, c'est de faire connaître, non pas par le langage, nécessairement, mais par l'empathie. Permettre de faire revivre émotionnellement au lecteur ce que la personne a vécu. Donc, il ne s'agit pas de tout balancer, il s'agit de compléter. Il y a une certaine forme de connaissance et de savoir qui n'est transmissible que de cette façon-là. Comment on évalue ça dans l'académie? Voilà la question. Donc, est-ce que c'est la précision, l'exactitude? Non, non, c'est plus l'authenticité, l'intérêt suscité. Il y a quelque chose d'important dans cette démarche-là, c'est se rendre vulnérable en donnant accès aux questions sensibles et à nos pensées les plus intimes. Il y a une possibilité d'émancipation et de produire l'effet cathartique. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, et j'en suis, l'auto-ethnographie évocative, si elle reste centrée sur elle et qu'elle ne débouche pas sur une connaissance plus générale, ça ne débouche pas sur ce que Edith Bruckner disait, le culturel, oui, c'est du narcissisme, j'en suis. D'autres personnes, vous savez comment on est dans l'académie, toutes sortes de monde cherchent à bricoler des trucs, de réconcilier Platon avec Aristote. Il y en a qui ont dit, tiens, on va faire de l'auto-ethnographie analytique. Donc, on va faire une auto-ethnographie, et puis après coup, on va doucement aller vers l'ethnographie, et puis on va produire de la connaissance, de la théorisation. Il y a des démarches autour d'Anderson et puis un peu plus tard qui utilisent l'auto-ethnographie et qui le croisent avec une ethnographie, notamment dans le cas de recherche-action ou de recherche-intervention où le chercheur travaille sur ce qu'il a vécu dans sa recherche et le croise avec, par une ethnographie avec les autres partenaires de la recherche. J'ai vu sourire. Voilà. C'est bien, pas de conneries, je serais là. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. OK. La troisième crise, j'en ai pas pour si longtemps que ça. La troisième crise, c'est celle de la praxis. Et j'atterris bientôt sur le titre de ma présentation. L'idée, c'est d'échapper à la rigidité discursive. Là, c'est plus délinquant un peu que faire une recherche sur soi et tout ça. Là, il s'agit d'échapper à la rigidité discursive, aux règles restrictives des méthodologies qui visent la clarté, la précision, à minimiser l'incertitude. Donc là, le retournement, je ne l'ai pas écrit, mais c'est d'illustrer la complexité, la contingence, l'émergence des réalités humaines et sociales. Ce que John Law, dans After Method, appelle « the otherness », ce qu'on balaye sous le tapis pour avoir une belle recherche. Explorer les aspects esthétiques et émotionnels de l'expérience vécue, pas celle des autres, la sienne. Fluidifier, je trouve ça joli, fluidifier les frontières entre les sciences humaines et sociales et la création artistique, entre l'observateur et l'observé, entre l'intervieweur et l'interviewé. si vous avez feuilleté le texte d'Eisman que je vous avais fait parvenir par Eric, c'est vraiment d'opérer un tournant performatif, c'est-à-dire que le chercheur ne va pas seulement produire du discours dans sa recherche, va viser à se réaliser lui-même par une forme de performativité. Donc, vous voyez, c'est performer. Il y a des traces encore du chercheur dans cette diapo-là. Performance et performativité. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? Beaucoup de textes commencent de cette façon-là. La performance vient des arts du vivant, le théâtre et la performance artistique. Donc, beaucoup d'écrits ont cessé de parler d'études théâtrales, surtout dans le monde anglo-saxon, pour s'intéresser à la performance, donc performance art. La performativité, quant à elle, vient d'une certaine contamination avec le monde des arts. On va trouver cette contamination en ethnographie, où Turner en particulier et d'autres ont commencé à vouloir mêler, parce qu'ils travaillaient sur les rituels et les danses, à mêler ça avec la performance, donc à danser les résultats de la recherche. Il y a eu des essais de ce côté-là, mais à peu près tous les auteurs vont vous rabattre sur ces deux grands penseurs ou proposeurs ou promoteurs de la performativité qui sont successifs. Austin, dans « Quand dire, c'est faire », le titre anglais est mieux, c'est « How to do things with words ». Donc, au travers des énoncés assertifs, il dit « Il y a des énoncés qui sont l'acte qu'il désigne. » Le truc le plus classique, c'est quand le juge dit « Vous êtes coupable ». Et donc, voilà, c'est un acte où vous êtes marié, ça c'est moins commun, mais vous êtes coupable. Donc, Austin parle d'énoncés performatifs parce qu'ils ont la capacité de faire un changement ou de faire une action. Judith Butler, dans Le trouble du genre, elle parle de performer le corps qui permet de contester les identités de genre. Performer le corps crée des espaces pour une politique queer de résistance. Donc, c'est toute l'idée, puis ça va être repris dans la petite formule. Elle dit qu'on performe notre genre. Oui, on hérite notre sexe, mais on performe notre genre. Et bien sûr, Butler est nourri de Derrida, est nourri de tous les auteurs, est nourri aussi de Austin. Si elle fait, pourquoi pas le faire nous aussi? Donc, le tournant performatif de la recherche, c'est vraiment de passer de la représentation. Hein, on en a parlé tantôt de la représentation, j'en ai parlé tantôt de la représentation, c'est-à-dire la transcription d'une pensée qui a déjà eu lieu. La transcription d'une recherche qui a déjà eu lieu. Une reconstruction ad hoc, finalement. De passer de ça à l'inaction. Là, plusieurs n'aimeront pas ça. Déconstruire les textes savants en produisant des textes non linéaires qui peuvent apparaître désordonnés, qui évoquent et invoquent une expérience sensible et non pas la décrire. Abolir la distance et le détachement analytique. Proposer des compréhensions partielles, plurielles, incomplètes, contingentes. Pas seulement raconter, comme on parlait tantôt, mais montrer, incarner, évoquer plutôt que transmettre. Mais toujours Armand Pierre. Donc, les étudiants le savent très bien. C'est une blague que je fais. Donc, oui, produire une disruption, un très bel anglicisme, du processus habituel de la recherche dans sa forme linéaire. Hein, pas besoin de vous la répéter. Oui, je la répète. La revue des écrits, formulation de la question de recherche, collection des données, analyse, interprétation, discussion, dissémination, prochaine demande de subvention, et hop, rebelote. Si la recherche devenait un processus qui est flexible et récursif, un peu à l'image des cycles, où une question génère un autre processus, qui finalement aboutit non pas à des résultats ou de la connaissance, mais à une incompréhension qui elle-même est réinjectée en question. Pourquoi pas? Donc, ici, les matériaux de la recherche étaient au-delà des entrevues puis des notes d'observation. Si on cherchait à comprendre des personnes et des groupes comme elles agissent, comme elles interagissent, des personnes qui touchent et qui ressentent, qui voient et qui entendent, qui font du sens, qui représentent leur vie à travers une variété de médias, c'est pas moi qui le dis, c'est Robert du 2008. Donc, c'est bien beau tout ça, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on fait quand on arrive à faire de la recherche qualitative, de la recherche dans les sciences sociales? Donc, il y a deux pistes qui sont offertes. Soit la diffusion créative des résultats de la recherche, donc être performatif en diffusion de la recherche. Donc, plutôt que d'avoir une diffusion textocentriste avec une terminologie incompréhensible, abscons, dirait certains, de diffuser au-delà des frontières de l'académie à des communautés plus larges, ce qu'on appelle maintenant mobilité des connaissances. Je vais fermer les guillemets que j'ai oublié de fermer. On fait une recherche ethnographique sur une peuplade analphabète d'Amazonie. Et puis on diffuse ça en Occident, dans un colloque blanc, je ne sais pas trop quoi. Donc ça répond, cette critique-là de la diffusion créative répond éventuellement à ce problème. Refuser de la discursivité, recourir aux pratiques artistiques, médiatiques et technologiques. Donc diffuser la recherche en incluant de la poésie, par une pièce de théâtre, par un film, une exposition, une installation, collage, bande dessinée, mandala, courte pointe, puis j'ai mis ici un etc. Vous pouvez mettre à peu près tout ce que vous avez envie de mettre. Donc, l'idée et le problème et la grande difficulté ici, c'est de traduire la connaissance qui est nécessaire et complexe en réduisant, mais ça produit une réduction sur l'amplitude informationnelle. C'est sûr que quand on fait un poème, on réduit l'amplitude, mais on a un gain en largeur de diffusion. J'ai ici quelques petits exemples là, de travaux qui ont été proposés où il y a tentative de diffusion de recherche. Deuxième possibilité, donc la première, on a retenu recherche qualitative post-positiviste conventionnelle avec une forme de diffusion créative. Là, ici, c'est un peu plus corsé. C'est une écriture créative ou sensible. Donc, le raisonnement réduit l'écriture à, je l'avais dit tantôt, une inscription non ambiguë d'une pensée ou d'une signification. Donc, on cherche à écrire de façon le plus juste possible notre pensée. Donc, et pourquoi pas, même si on... excusez-moi, c'est... Ça va vite dans ma tête, c'est de dire, je trouve que beaucoup de gens sont tout à fait d'accord sur l'aspect constitutif du langage. C'est-à-dire, oui, le langage est constitutif, c'est-à-dire qu'on se constitue par le langage, etc. Sauf qu'ils utilisent une méthode de diffusion de cette pensée-là qui n'est pas conforme à ce qui est réfléchi. Et donc, ils vont utiliser une écriture de type transmissionniste pour expliquer que le langage est constitutif. Ici, c'est de dire, pourquoi pas faire le pari de jouer le jeu et de reconnaître la force institutive du langage dans la formation des subjectivités et des réalités. Et bien sûr, le récit est la forme royale pour ce faire. Donc, le récit, Ricœur l'a bien mis, et puis après ça, ça a été repris, que c'est une façon de production de sens face à la complexité de son expérience, à la fois pour le participant à la recherche, mais aussi pour le chercheur. Donc, on va parler d'écriture comme méthode de recherche, comme façon de connaître et source de connaissance. Et puis ça va refléter la fluidité, la production continue de l'identité du chercheur. Et puis là, mes camarades simondiens diraient l'individuation. Transmission créative, dissémination d'une recherche, écriture créative, dernier concept, dernière étape, ce qui s'est appelé les pratiques analytiques créatives. entre autres par Richardson. Là, ici, il s'agit d'abolir la frontière entre le texte, la représentation et la critique, refuser la simplification et la réduction. Donc, les écritures créatives, oui, la poésie, la fiction, mais aussi la photographie, le dessin, le documentaire, l'ethnofiction, le collage. Donc, vous allez avoir des textes où on va parler de collage as research, writing as research, collage as research, filming as research, photographie as research. Il y a une espèce de bouquin Sage où il y a 800 pages de toutes les déclinaisons possibles de travail des pratiques analytiques créatives et comment les intégrer dans des pratiques de recherche en sciences humaines et sociales. Donc, il y a un bouquin qui vient de sortir, Creative Research Method in the Social Sciences. C'est dommage, il est à McGill et puis pas à l'UQAM. Et il est à l'Université d'Outaouais. J'ai trouvé ça merveilleux, je l'ai fait venir d'Outaouais. Et ici, même pas pris en catégorisation, en indexation, personne n'a pensé que ça pouvait être intéressant. Enfin, bref, vous allez voir dans la table des matières, là, des questions d'éthique, comment trouver les données, gathering data, en écrivant, au moment d'entrevue vidéo, par en dessinant, en faisant des cartographies, en faisant du shadowing, des vignettes, etc., etc. Un bouquin assez lisible, mais intéressant si jamais vous voulez vous essayer à la chose. En conclusion, j'ai des grandes questions puis des petites questions. Mes grandes questions, c'est qui êtes-vous comme chercheur? Quelle est votre pratique? Souhaitez-vous vous réaliser comme personne incarnée dans votre pratique de la recherche? Puis des plus petites questions, un vendredi matin. Pourquoi ne pas songer à laisser des traces du processus de recherche dans l'écriture de vos résultats? Pourquoi ne pas joindre une dimension réflexive à votre perspective critique? Merci beaucoup. Le dispositif de saisie des trucs pour être complètement transparent et performatif.
Merci Louis-Claude. Alors Yvette, donc c'est à toi la parole.
Merci beaucoup, c'était très intéressant. J'avoue que j'ai pensé pendant un moment, en écoutant la présentation, à un grand réalisateur russe qui s'appelle Andrei Tarkovsky, qui avait dit une fois que quand il parle de la poésie, il ne voit pas la poésie comme un genre spécifique littéraire, il la voit plutôt comme une manière particulière de voir le monde, de le connecter à la réalité. Et c'est, votre présentation m'a fait penser beaucoup à ses films, à son art et à sa poésie. Je parle de la poésie dans sa signification générale. Ça me fait penser aussi à l'histoire de Walter Benjamin et Adorno, quand Walter Benjamin voulait faire son projet avec les arcades, les arcs du métro à Paris, pour étudier l'atmosphère de la ville, et Adorno l'a critiqué lui en lui disant que son projet est nul parce que c'était à l'intersection du positivisme et de la magie. En étant étudiant en doctorat avec un projet de recherche-création moi-même, je voudrais tout d'abord commencer avec la question comment calait la recherche-création par rapport à la recherche en sciences humaines, une question qu'on se pose tous, parce qu'on arrive toujours à un moment où on doit trouver une manière de régler cette contradiction entre la liberté de la création, qui peut être total dans un monde idéal, et une recherche scientifique très très rigoureuse. Est-ce que le tournant performatif de la recherche peut donner des options pour régler, trouver une manière de faire un armistice?
Ouf, question complexe. D'abord, pour ce qui est de la guerre, c'est pas les gens de la recherche-création qui la font. Les gens de la recherche-création, tout ce qu'ils veulent, c'est exister. La guerre, elle est faite de l'autre côté, donc pour régler la question de la guerre. Pour moi, pour y avoir réfléchi en tant qu'intellectuel, mais surtout pédagogue, et ayant vu des personnes, ayant dirigé, ayant accompagné des personnes, pour moi, la façon de faire, c'est un, de ne pas lancer les gens en recherche-création sur les exigences de la science telles que vous l'avez mentionné. Ça m'apparaît tout à fait non avenue. Je pense que quelqu'un qui fait de la recherche-création, ce qu'on lui demande, et puis c'est pas juste Louis-Claude qui le dit, là, c'est toute la littérature sur le sujet, on demande d'une, les anglophones vont parler d'une exégésis, c'est-à-dire une réflexion sur sa pratique, une réflexion et non pas une description, et puis on s'entend, décrire n'est pas réfléchir, c'est beaucoup plus complexe que ça, d'une part, et d'autre part, un cadrage. On ne dit pas un cadrage par rapport au monde des idées et des concepts, et un cadrage par rapport aux autres pratiques similaires à la nôtre. Okay, donc, il ne s'agit pas de résoudre les problèmes théoriques que posent les concepts auxquels on se cadre. Ce n'est pas notre travail, c'est le travail des gens qui sont en recherche, il faut bien comprendre. Ce n'est pas ces gens-là qui doivent résoudre des problèmes d'école, de paradigme, etc. Ce qu'on va demander aux gens en recherche-création dans l'académie, c'est d'être capable d'en faire état, et surtout de montrer le lien en quoi les concepts, théories, paradigmes qui sont mentionnés viennent alimenter leur création. Pour moi, le grand critère d'évaluation, c'est pas de... Oui, bien sûr, il ne s'agit pas de dire des conneries, il s'agit bien d'avoir fait ses lectures et tout ça, d'être capable de... Mais surtout, de montrer en quoi ces concepts et tout ça se retrouve dans la création et en quoi la création vient modifier notre oui, donc c'est ça pour moi. Donc, deux majeurs, la réflexivité, donc la réflexion sur sa pratique. Moi, quand les gens viennent et puis ils sont des créateurs, je leur dis, si tu viens faire un doc ou une maîtrise dans la création pour devenir un meilleur créateur, tu perds ton temps. Au contraire, je pense que ça risque de plus te mêler que d'autres choses. Si tu viens réfléchir sur ta pratique, si tu viens nommer, si tu viens comprendre ce qui se passe à l'intérieur pendant que tu es dans une... Là, tu es à la bonne place. Et si tu viens te lier ou te cadrer par rapport... Là, tu es à la bonne place. Et donc, moi, c'est comme ça que je vois... Et c'est pour ça que dans la méthode des cycles heuristiques, avec toi, comment on fait ça? Parce que quand on est en création, on n'est pas en train de réfléchir. On comprend? C'est deux côtés du cerveau. C'est enfin, bref... Mais c'est en alternant l'un et l'autre et en arrimant. C'est-à-dire, on va en atelier, puis après ça, on réfléchit sur ce qui s'est passé dans l'atelier et ainsi de suite. Donc, c'est la façon méthodologique que j'ai trouvée de mettre en action. Pour ce qui est du tournant performatif, c'est que il existe entre la recherche et la recherche-création une série de postures et de positions et de désirs de la part des chercheurs. Ils vont me poser la question, je veux faire un site web, moi je veux faire un peu de vidéo, et puis est-ce que je fais de la recherche-création? Je disais non. Non, parce que si tu fais de la recherche-création, ça veut dire que ton vidéo, tout à l'heure, va être évaluée par des spécialistes du domaine, et on va te demander un professionnalisme, un rendu, une esthétique qui est de ce niveau-là. Okay? Oui, mais je vais en faire quand même. Ben, en fait, les gens étaient tout à fait légitimés, c'est qu'ils ont en eux ce désir. Ce désir de se réaliser, ce désir de connecter avec leur expérience, ce désir de fluidifier les frontières entre le monde de la raison et puis le bon, etc. Et c'est ça pourquoi je me suis intéressé au tournant performatif et à toutes ces formes-là. Donc, à mon sens, et puis c'est un truc que dont je veux faire la promotion, et comprenez-moi bien, je ne dis pas que tout le reste est de la merde. Okay? Je dis qu'à côté de tout le travail d'écriture, de travail scientifique et tout ça, je pense qu'on devrait accueillir et réserver une place pour ce genre de travail-là, en l'évaluant au mérite. Il ne s'agit pas de faire du n'importe quoi. Et moi, j'ai l'impression que le doctorat à l'UQAM, en tout cas celui dont je rêve et dont j'essaie de vendre le rêve et de communiquer le rêve aux autres, est un doctorat qui va permettre ces choses-là. En toute rigueur, mais de permettre aux étudiants, aux personnes qui ont envie de se réaliser une partie d'eux-mêmes. Parce que faire des écritures créatives, là, c'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir une bonne plume. Il y en a qui sont des conteurs, mais malheureusement, là, il y a question des talents. Et puis, on est un talent de conteur. Et c'est ça qu'on va activer. De faire un récit qui est intéressant et tout ça, il faut le travailler. C'est pas de dire, je me laisse aller, comme la neige a neigé, là, on n'est pas dans ce truc-là, là, on est vraiment dans Et c'est intéressant, si jamais la chose vous intéresse, je vais vous donner des exemples, des trucs. Là, ça fait, je peux inventer ça. Ça fait, excusez, je fais une réponse trop longue pour une question, peut-être, d'écoute.
Je voudrais continuer encore un peu avec la recherche performative. Dans son texte, Van Kleesman nous dit que la recherche performative, comme il a dit, the performative research, c'est en effet un troisième paradigme, une nouvelle méthodologie de recherche. D'après lui, la recherche quantitative, c'est des chiffres symboliques. La recherche quantitative, la recherche qualitative, c'est des mots symboliques. Tandis que la recherche performative, c'est de l'information symbolique qui fonctionne d'une manière performative. Et de cette manière, l'expression elle-même devient la recherche. Est-ce que vous pouvez m'aider un peu sur...
Ben, le doigt sur l'opinion. C'est-à-dire que de fonder un troisième paradigme, je trouve que c'est un peu culotté. Il faudra attendre un certain temps avant de le fonder. En même temps, je comprends, son texte est intitulé « Un manifeste pour ». Donc, si tu veux un manifeste, tu n'y vas pas, tranquillement. Là, tu sors de rotoculteur pour parler comme Jean-Pierre l'a rappelé. Et on ne peut pas... Quand quelqu'un fait un manifeste, il va à fond Léon. Donc, à ce moment-là, comme universitaire et tout ça, j'aurais peut-être un certain nombre de restrictions. Moi, vous voyez, je me suis rétracté en disant que oui, on a mis en crise ou on a mis en question certains aspects du post-positivisme, mais je n'ai pas dit qu'un nouveau paradigme qu'il a plus grand, bon, etc., etc. J'en suis pas là. Par contre, entre ça ici et en disant voici un nouveau truc, moi, je trouve que c'est la meilleure façon pour se faire rentrer dedans que de dire ça. Tu sais, c'est comme, j'aime mieux dire on va expérimenter, on va voir, on va. Et à partir de là, donc, je suis beaucoup plus modéré, mettons, que cette possibilité. Quoique j'endosse en partie, si vous avez bien écouté ce que j'ai dit, j'endosse en partie. Et parfois, je vais plus loin que Esben. Il faut penser que ce texte est en 2006, il y a déjà 10 ans entre cette façon de.
Mais je ne vais pas prendre la parole tout le temps. Je vais peut-être laisser la parole aux participants pour des questions.
Je propose de, que vous, si. Que vous donniez votre prénom, votre nom avant de prendre la parole, c'est pour l'enregistrement notamment, et puisque peut-être aussi que tout le monde ne se connaît pas, mais je vais commencer par faire une exception, puisque c'est Jean-Pierre Boyer qui a demandé la parole. Donc vas-y Jean-Pierre, non, mais ça n'a pas besoin de te présenter, puisque c'est fait.
Okay, merci. Merci beaucoup Louis-Claude, j'ai trouvé ta présentation extrêmement stimulante là, sur tous les plans, intellectuels, émotifs, et je reconnais en toi l'intellectuel généreux de sa personne, mais aussi ouvert à la singularité, aux singularités au pluriel, là, et l'ouverture à une vision pluraliste de ce que peut être la recherche-création, que ce soit la maîtrise, que ce soit le doctorat. Il y a beaucoup de choses très intéressantes, moi j'ai trouvé, là, quand tu as parlé par exemple. Ça rejoint, tu as parlé par exemple de performer sa recherche, le résultat de sa recherche. Je sais qu'il y a des expériences qui se font dans les alpha, qui vont dire peux-tu danser ton doctorat en 30 secondes Ça, il faut que tu le danses. Alors, ça, je trouve ça très intéressant, des pistes comme ça. Puis, ça participe, je dirais, d'un esprit de créativité, de recherche, de quête, de sens, à la fois individuel et collectif. Bon, il y a une autre affaire, c'est que tu as dit la poésie, c'est une réduction. Moi, je me permets de ne pas être d'accord. Je trouve que la poésie est une amplification des possibilités de sens. Mais ce n'est pas un gros débat. Okay? Je trouve que du côté de la méthodologie, les pistes sont vraiment intéressantes et j'amènerai à ton moulin un mot que j'ai vu récemment. Je l'ai lu furtivement, je n'ai pas noté d'où il venait. Il parlait de mythodologie, M-I-T-H-O, mythodologie. Puis, je trouve finalement que toute ta façon de réfléchir sur la dimension auto-analytique, psychanalytique, l'émotion, de faire converger des choses qui étaient proscrites dans le cadre classique, ça, moi, je trouve qu'ultimement, ça rejoint quelque chose qui est proche du bouddhisme. L'autoréalisation. L'autoréalisation. C'est, qu'est-ce que tu fais de ta vie? C'est une question qu'on pose aux étudiants et on se la pose à nous aussi. Ok, maintenant, j'ai une question qui est peut-être difficile, mais tout ça, là, sur fond d'appréciation générale extrêmement positive, c'est que je crains un peu, parce que je sais qu'on a fait l'exercice à la maîtrise dans un premier temps, puis là, tu t'apprêtes, toi, comme directeur du doctorat, à faire l'exercice au doc. Et on sait qu'il y en a qui nous attendent dans cette université, le département des arts, mais aussi d'autres départements. J'ai vu là qu'il y a une petite affiche là qui est sur à côté de l'ascenseur, là, qui est question d'art, d'agencéité et tout ça. C'est quand des études littéraires. Les études littéraires font collaborer. Alors, ma question, ça rejoint un peu la question, là, mais plus précise encore, parce que vous posiez légitimement la question de la recherche-création par rapport aux recherches en sciences humaines, c'est en quoi? Parce que tu n'as pas beaucoup utilisé le mot communication. En quoi ce modèle rêvé, moi aussi j'en rêve, du doctorat en recherche-création, la thèse, en quoi ça va être inscrit dans des problématiques de communication? Parce que c'est une question très importante du point de vue institutionnel. Si tu n'as pas ça, ils vont dire, tu joues dans les plates-bandes des arts, études pratiques des arts, ça existe déjà depuis un certain temps. Puis, il y a peut-être d'autres là qui nous attendent pour nous faire la peau, d'une façon de parler. Mais pour entrer un peu en rivalité avec nous, pour planter leur drapeau sur la recherche. Donc, pour moi, je pense que cette question-là, elle est incontournable. Il faut que la réflexion sur la communication, puisque on est au département de communication, de la faculté, etc. Donc, c'est ça.
Merci Jean-Pierre. La première, je pense que je me suis mal exprimé parce que c'est pas ma pensée. Je n'ai pas dit que la poésie, au même titre que le collage, est restrictive. Au contraire, on parle d'ouverture, ouverture du sens, une très grande ouverture. Une si grande ouverture que, et on a fait l'expérience dans le cours, c'est que plus on va dans quelque chose qui est ouvert, moins on peut en dire. Mais plus largement, on va. Donc, ce que j'ai constaté, c'est que quelqu'un qui essaye de façon créative de diffuser mettons, une grande histoire de quelque chose, en poésie, ça va être plus difficile. Mettons, la bande dessinée déjà. Et donc, il faut faire un arrimage entre la recherche, les résultats qu'on a et. La façon créative, le moyen créatif de l'utiliser. J'ai vu des exemples, parce que moi, j'ai un collègue qui est psychanalyste, parfois avec qui j'enseigne, et maintenant, dans les colloques de psycho, il y a toujours une thèse de théâtre. Et eux autres, c'est fun parce qu'ils sont sûrs d'aller dans le colloque, parce qu'il y a toujours des beaux os qui font des affaires. Et donc, ils font de la diffusion créative de recherche psychologique. Et à ce moment-là, c'est parce que c'est actentiel, leur truc, en psycho. Donc, ça convient bien. Donc, il y a certaines formes créatives qui conviennent mieux, mais il y a une relation qu'on doit établir. Parce que c'est bien beau, je vais faire un collage avec quatre images, mais on est toujours dans ici diffusion des résultats de nos recherches. Donc, il faut qu'il y ait un certain retour. Donc, c'est ça que je voulais dire. Et non pas. Bon, ça dispose de la petite question. La grande question, il n'y a pas vraiment de réponse. Il y a des actions qu'on peut prendre, mais j'étais à une table ronde, je vais faire une anecdote, comme ça m'énerve quand les autres font ça, mais je le fais. J'étais à une table ronde, et là, Erin Manning, collègue illustre de Concordia, quand j'ai fait ma présentation, elle s'est mise à pleurer, elle a dit, ah, cette semaine, on m'a refusé une thèse de doctorat. Ah oui, elle était là. Et donc, le moment émotif, tous les professeurs ont dit, parce qu'elle n'avait pas rempli les critères, je ne sais pas trop quoi. Donc, on était face aux résultats d'un processus. Bon, c'est à Concordia, c'est tout ça. Et ce qu'elle a invoqué, et c'est le truc qui est invoqué maintenant dans le monde queer et transgenre, c'est de développer des safe zones, c'est bon, évidemment, des zones de sécurité, où ces zones-là pourraient exister. Des pratiques alternatives. Donc, c'est une forme de milieu. Enfin, bref, c'est arrivé comme ça. Mais je suis profondément convaincu que qu'effectivement, ça heurte tellement de dire aux gens, tu sais, je le dis en provocation, quand il y a des grands scientifiques qui parlent distanciés, qui font de la science humaine et tout, je leur dis, écoutez, vous êtes dangereux. Parce que vous présupposez, puis votre idéologie est transparente à vous-même et à vos lecteurs. Et c'est eux, quand on leur demande, on fait ça, parce qu'effectivement, quand on arrive avec un type de travail comme ça, c'est confrontant. S'il est bien perçu, il est confrontant à dire, bon, ben là, il y a de la censure, etc. Oui, et l'idée, c'est à l'intérieur d'un programme, à l'intérieur d'une université, c'est de faire un réseau de collègues qui touchent. Qui dépasse les cadres, une communauté qui dépasse les cadres du département de la faculté de com. Il y a des gens sociaux qui sont intéressés à ça. Il y a des gens en art, il y a des gens de l'autre département, ici. Il y a des gens de chez nous, etc. C'est de trouver un réseau pour pouvoir fonctionner à l'intérieur de ce réseau-là. Et donc, une zone franche de critique abusive, mettons.
Sans que ça soit un doctorat conjoint.
Pour moi, c'est de toute façon, honnêtement, la personne écoute. J'ai trouvé, à part des gens en recherche création, que les gens de Concordia étaient encore plus straits et plus positivistes qu'on pouvait l'être. T'sais, j'ai trouvé, écoute, un exemple, j'ai fait le forum doctoral et puis il y avait une étudiante de Toronto qui travaillait sur l'éthique de la pornographie lesbienne avec une hypothèse. Avec un appareil, je veux dire, on travaille avec un appareil du 19e siècle, c'est une problématique. Et on voyait nettement dans son corps et tout ça, dans son être au monde, qui était impliqué complètement dans ça, là, tu sais. Mais elle n'avait pas le droit, elle faisait semblant qu'elle était une personne mâle, blanche, non sexuée, et tout ça, avec toute son hypothèse. OK, on comprend? Ça ne doit pas être facile à vivre, il me semble. Tu viens faire un doctorat, pendant 4 ans, tu travailles sur un objet qui te. Tu vas chercher dans le fond, puis tu n'as pas le droit de le laisser passer parce que l'appareil ne te le permet pas. OK, bon, je dérive, là, mais...
Non, mais je
reviens en communication, parce que c'est tapé.
Quand j'ai dit que doctorat, bon, moi, je ne pensais pas avec d'autres universités, mais à l'intérieur même du camp. Parce que, ils font de la recherche-création.
Oui, mais en même temps, j'ai vu, j'ai vu de mes yeux vus, des gens en art sanctionner des récits pratiques en disant que c'est pas pertinent à une soutenance de doctorat.
OK.
OK, donc, ce combat-là, il n'est pas disciplinaire. Il touche d'autres sections. Maintenant, quant à la communication, je pense que les approches dont je fais la promotion ici, légère promotion, bien sûr qu'au doctorat en com, les gens qui font la recherche création vont s'assurer que la com. C'est-à-dire que ça n'enlève pas la façon classique ou la façon, mettons, givrée de le faire, n'empêche pas que quand quelqu'un va faire de la recherche création en communication, on va exiger une pertinence communicationnelle et tout ça, et de l'autre côté. Donc, pour moi, ce problème-là n'est pas touché par ces approches-là. Et en art, je vais leur proposer de faire des écritures créatives aussi, de proposer et la même chose. Tu vois. Et en sociaux, je pense à Louis Jacob, je pense à d'autres personnes, elles sont beaucoup intéressées à pouvoir faire de la sociaux de cette façon-là. Donc,
il va y avoir des cours de trompe en main.
Non, mais je dis, c'est-à-dire qu'en delà de ça, c'est-à-dire qu'on peut demander à ces gens-là d'évaluer nos trucs, on peut... c'est pas obligé de rentrer, pas obligé d'officialiser ça dans un terme de programme, on peut faire des trucs où on va se parler, on va se reconnaître indépendamment de nos disciplines. En fait.
Mais autant qu'il n'y a pas trop de rigidité.
Parce que si on passe notre temps à faire des programmes, on perd le temps qu'on pourrait faire des choses.
Ah,
on est là à faire des structures.
C'est sûr.
Et oui, j'en suis des structures. Des structures, mais en même temps, je ne m'empêche pas d'essayer. Parce que les structures vont venir officialiser des pratiques. Si on n'a pas de pratique, c'est bien beau de faire des structures, puis que tout négocier des critères, des évaluations en 23 critères avec des grilles longues comme ça. S'il n'y a pas de pratique, il n'y a pas d'intérêt. Dans le fond, c'est le milieu des doctorants et des chercheurs qui vont faire, par leur pratique et leur désir, qui vont, je pense, en tout cas.
Juste petite question, est-ce que le principe de la thèse création est déjà accepté.
Oui. Oui, la première est déposée, c'est une collègue, Diane Poitras. La deuxième, c'est Isabelle Caron, et puis elle vient de déposer.
OK.
Et elle est en évaluation. Diane Poitras a eu excellent, a été jugée. Moi, ça ne regarde pas si bien. En tout cas, je ne veux pas présumer, je ne veux pas influencer.
On va peut-être poursuivre.
Oui, allez, Manim.
Parce qu'il y a deux mains, j'ai vu deux mains levées, Ouma et Eric. Ouma.
Pardon.
Bon, alors, j'y suis, Marc Kahn est professeur au département de communication sociale et publique, pour ceux et celles qui sont là.
Merci, Nicolas. J'ai trouvé ta présentation très, très stimulante. Je suis un béotien, j'ignore tout, la recherche création, donc j'ai été écouté avec beaucoup d'intérêt. J'ai trois questions, trois courtes questions naïves. La première. Pas du tout. Alors, la première, c'est la dimension critique qui nous intéresse ici, le critique. Est-ce que la portée critique de la recherche-création, elle est dans le processus même de recherche-création, ou c'est une dimension qu'il faut aller chercher comme en surplus, je veux dire, qui va s'ajouter à une. Est-ce que toute recherche-création, de ton point de vue, est par essence critique, ou alors est-ce que c'est une dimension externe qu'il faut penser? Ça, c'est la première question.
Je vais répondre une à une.
D'accord.
Une réponse plus longue sera donnée par Eric, parce qu'Eric va donner probablement beaucoup plus ses dimensions que moi.
Okay.
Moi, ce que j'ai présenté ici, j'ai parlé un peu de recherche-création, j'ai surtout parlé de la recherche performative. Et là, maintenant, je vous ai parlé, mais je travaille à la recherche post-qualitative, évidemment critique, mais critique des méthodes et du monde académique. Donc, toutes ces démarches-là sont critiques de la chose pour affirmer. Donc, effectivement, la dimension critique, c'est pour ça que quand Eric m'a dit, oh, mais c'est du critique ton affaire, je dis, c'est critique du monde académique. Et par ailleurs, est-ce qu'en recherche-création, il y a toujours une démarche critique, une dimension critique? Parfois oui, parfois non. Parfois, ça va jusqu'à l'activisme. Parfois, ça va en tant qu'une parole citoyenne, puis parfois, c'est complètement formel. C'est-à-dire que, et comme il y a liberté, la dimension critique, c'est de laisser à chacune des personnes dans sa façon de vivre sa recherche-création.
D'accord, merci. La deuxième chose, suite à la question de Jean-Pierre Boyer, qui était davantage d'ordre institutionnel, tu as commencé à y répondre, mais je voudrais t'entendre. La pertinence communicationnelle en recherche-création, elle pourrait se déployer, à quoi elle pourrait ressembler par rapport à des gens qui sont en art et en littérature?
Ah, c'est complexe, ça. C'est complexe parce que ça voudrait dire qu'il existe quelque chose tel qu'une pertinence communicationnelle qui n'englobe pas tout.
C'est le terme que tu as utilisé.
Non, que lui m'a envoyé. Moi, je n'ai pas utilisé ça du tout. Pourquoi? Parce que si on regarde, c'est complexe, j'ai envie de faire une preuve par la porte de côté qui est très faible. Si on regarde les pratiques artistiques maintenant, ils sont relationnels. L'art relationnel est basé sur des théories de communication. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de discours en art qui n'est pas communication, excuse-moi. Il reste avec une posture esthétique, peut-être, qui est majeure, mais l'art relationnel, l'art furtif, les collectifs de création, l'artivisme, tout ça a une forte dimension communicationnelle, remonte à Bettine, ça a été lavé par des auteurs en histoire de l'art, mais principalement, et c'est pour ça que Fred Forêt avait pété les plombs à un moment donné en disant, fuck, vous ne reconnaissez pas au précurseur, parce que vous arrêtez à Bourriaud, qui est la personne à qui on a attribué tout ça, mais qui s'est essentiellement nourri des théories internationales symboliques. Ouais, donc, c'est comme difficile quand j'entends des gens en art en disant, vous autres en com, vous êtes des trucs, puis ils tiennent des discours dont ils ne connaissent même pas, parce qu'ils ne savent pas l'épistémologie, là, ils ne connaissent même pas les ancrages qui sont éminemment communicationnels. Donc, c'est pour ça que j'ai la difficulté à répondre. Y a-t-il des œuvres qui ne sont pas communicationnelles? La thèse d'Isabelle Caron travaille sur les processus de création collective, l'art collectif, et c'est évidemment communicationnel, parce qu'ils sont six à créer. Dès lors que tu te mets à 6 ou 8, je ne sais pas combien, à faire de la création, tu tombes dans la communication parce que tu dois négocier, tu dois discuter, etc. Et là, il y a des processus, et tout ça n'est étudié que par la communication de façon...
Ce que ça veut dire pour les étudiantes et les étudiants qui font une recherche en une recherche création, c'est qu'il y a manière de problématiser communicationnellement, c'est ça que j'entends. Quel que soit l'objet, vous n'avez pas à paniquer particulièrement, même si c'est quelque chose. Je pense que c'est quelque chose dans le cours d'épistémologie, c'est une interrogation récurrente et c'est une inférence qu'on fait et c'est très important, ça, je pense, de le clarifier pour dire que ce n'est pas les objets qui sont naturellement qui appartiennent à telle discipline, c'est la manière de les problématiser et que de ce point de vue-là, il y a une certaine ouverture.
C'est comme ça qu'on a gagné le combat avec la faculté des arts en revendiquant la création. La création, c'est une pratique, elle appartient à personne. Donc, vous avez un regard sur la chose, nous on a un regard, le cinéma appartient à qui? L'anthropologie travaille le cinéma, la philosophie travaille le cinéma, l'école des médias, les en art, sauf que la perspective, il s'agit de définir notre perspective disciplinaire sur ces objets-là, qui sont, à mon sens, là, on déborde de beaucoup de propos.
Voilà, troisième question.
Maintenant, je m'en fais carré là-dessus, donc j'ai une réponse.
Tu as évoqué dans une prépartition au début de ta présentation, le fait qu'il faut avoir une question pour la recherche création.
Oui.
D'accord. Ma question, c'est est-ce qu'il faut systématiquement une question ou est-ce que ça pourrait être un objectif dans certains cas?
Ça peut être un désir, ça peut être un fantasme, ça peut être... Mais sa formulation, pour moi, elle doit être de façon performative et c'est terminé. Parce que si c'est une affirmation, on fait une œuvre qui va démontrer quelque chose. Pour moi, là, je ramène la question, un, pour être capable de cadrer dans l'académie, mais pour moi, une question de recherche-création, c'est le moteur. Et puis, cette question-là peut venir d'un fantasme, d'un désir, d'un manque, d'une faille de la personne, d'une exubérance, d'une schizophrénie, etc. Mais à un moment donné ou à un autre, quand on veut initier une quête, il y a toujours un énoncé performatif qui le lance. Et je pense que les gens... Les étudiants, en termes de pédagogie, on doit les amener à la formuler. Est-ce que c'est une question tout à fait théorique? Ça pourrait être de dire, je ne sais pas, moi j'ai un sculpteur avec qui je travaille présentement, et lui, c'est de dire, est-ce que la malfaçon pourrait être une manière où je pourrais sculpter sans faire, je traduis là, sans faire plaisir à l'académie? Donc là, ils s'en vont en atelier avec cette question-là, et puis ils travaillent de la même façon. Mais il a formulé, donc par un travail au même titre de problématisation, tout ça, on est arrivé à réfléchir sur... Mais lui, il parle de sa pratique, et il montre tout son désir, et puis on est arrivé à le formuler dans une question qui devient une question de recherche-création, et qui initie un travail en atelier, qui après va être réfléchi, va être mis en relation avec le cadré par rapport au concept, par rapport au... Donc, l'idée de la question, parce que j'en vois, mais j'en ai pas de tête. C'est un dispositif performatif pour la question. C'est un sprint, tu sais, c'est comme te dire, c'est quoi le ressort qui va te lancer? Es-tu capable de le formuler déjà, d'amener les gens à le formuler? Au même titre, qu'est-ce qui est difficile pour les collègues qui encadrent, qu'est-ce qui est difficile à faire aux étudiants, formuler leur question de recherche? Il y a un travail de fou, qu'est-ce qu'il n'y en est pas, qu'est-ce qu'il y en est, etc. Puis ça devient un dispositif performatif qui lance après ça la personne dans quelle est la méthode qui va répondre à la question, etc. Donc, je ne vois pas de différence. Je vois des adaptations, mais je ne vois pas des oppositions. Beaucoup de gens dans la littérature vont dire « Oui, l'artistique, lui seul, dans l'académie, il n'a rien à voir avec ça. » Moi, je pense qu'au contraire, le travail des intellectuels qui réfléchissent, c'est de dire quelles sont les différences et les similarités pour être capable... Après ça, d'intégrer et non pas de faire deux mondes séparés, les intégrer. La même chose pour quelle est une question, là je ne vais pas dépasser mes compétences, je vais le faire quand même, mais quelle est une question de recherche-action? On doit aboutir à une recherche. Pourtant, ce questionnement-là ne vient pas de la théorie, il vient de la vie des milieux. Mais il y a toujours l'idée de la question, pour moi, est une étape intellectuelle qui fait partie du processus. Je n'ai jamais trop dit.
Éric, tu me permets que je donne la parole à Daryl Lavant. Daryl Lubert, donc, qui est étudiant en la maîtrise.
Moi, en fait, j'avais juste une question par rapport à la performativité. J'ai bien aimé aussi la présentation. C'est ça, mais en fait, je voulais juste... Je ne sais pas si j'ai bien compris. Mais, dans le fond, ce serait la question que la pratique... Ou, c'est une question, est-ce que la pratique en elle-même serait le résultat de la recherche? Est-ce que ce serait comme la pratique comme recherche en tant que telle, est-ce que c'est un peu ça? Puis, parce que moi, je trouve ça vraiment intéressant comme vision. En même temps, j'ai de la misère à voir comment on peut l'appliquer en milieu académique. Mais je trouve ça intéressant que la pratique en elle-même peut avoir en elle-même un aspect de recherche. Je me demande si la performativité, c'est pas ça ou c'est autre chose.
La performativité, c'est une mise en action. Et quand on l'amène, tu sais, la performance, ça va bien. Quand on l'amène dans le monde des sciences humaines, toujours une réponse nuancée, parce qu'elle doit l'être. Et ce concept-là, c'est se mettre en action. C'est se mettre en action de façon personnelle et de se mettre en jeu. Mettons avec tous les, je ne vais pas tout répéter ce que j'ai dit. Au lieu de faire l'ensemble des règles, d'appliquer les règles d'une part. D'autre part, la pratique en tant que recherche, la recherche est une pratique. Et comme telle, elle devrait elle aussi être réfléchie et non pas prise comme de façon transparente. Elle doit être questionnée, vécue, incarnée. Et l'incarnation, c'est toujours incarné, c'est toujours les gens. C'est pas vrai que les gens font des belles conférences, ils ont jamais mal au ventre. C'est pas vrai que. Moi, j'en fais bref, je crois pas. Là. C'est pas vrai que tout le monde peut avoir écrit 14 articles dans une année sans être à moitié mort, avoir fait souffrir son entourage, bon, etc. Non, mais. Et ça, on le gomme, on le biffe. Pour moi, quand on dit qu'on arrive une réflexion sur la pratique, on le met en avant. Pour moi, la crédibilité d'une recherche, c'est une recherche qui s'est plantée. Puis j'ai eu des débats, écoute, quelqu'un qui fait sa taille, son mémoire, c'est un mémoire, arrive jusqu'au bout, et ça n'a pas marché le terrain, ça a chier. Bon, bref. Et là, il y a deux possibilités. Ou on fait un chapitre de discussion en disant que je me suis gouré, je me suis fait induire en erreur, tout ça, ou on réécrit tout pour convenir au terrain. Ben, excuse-moi, la personne, on a le droit, parce qu'il y a des gens qui disent on réécrit tout. Pas de problème. On écrit l'intro, tout ça, ils vont te dire. Ces gens-là vont dire écris ton intro puis ta météo à la fin. Quand tu es réalisé, tu es sûr que tu n'écris pas pour rien. Mais moi, je ne suis pas de ceux-là. Je suis de ceux où tu laisses la trace du vécu. C'est ça qui m'apparaît intéressant dans la chose. Mm. Mais là, j'ai tout ça de présupposer. Est-ce que je crois que la connaissance avance? Mettons, non. Mm. Je trouve que. Enfin, bref, là, on ne partira pas dans mon ontologie personnelle. Je trouve que. Si jamais tu vas savoir, ça va coûter quelques doubles de scotch. Puis pas d'enregistreuse.